C'est un livre de sympathie, évidemment, mais extrêmement documenté et qui ne se veut pas exhaustif. C'est-à-dire qu'il y a des parts entières de la vie et de la carrière de Camus qui sont passées au bleu. Il parle pratiquement pas du théâtre. Il parle pas de sa vie privée ou très très peu. Il raconte surtout ses déboires, j'allais dire conjugaux, du fait de la dépression chronique à un moment donné de sa seconde épouse. Sur ce plan-là, c'est pas du tout une biographie événementielle et un peu incursive, comme on en lit beaucoup aujourd'hui. C'est une biographie philosophique, c'est vrai. Ce qui l'intéresse, c'est de voir, au départ, et il le fait très longuement, de quelle manière se construit un intellectuel qui part avec tous les handicaps possibles. Parce que la grande différence qu'il dessine avec Sartre montre que Sartre est quelqu'un qui naît parmi les livres, qui a un oncle écrivain, qui est vaguement descendant de Schweitzer, dont la mère était extrêmement cultivée, et qui raconte d'ailleurs lui-même dans les mots à quel point la vie livresque lui était familière dès le berceau. Camus, c'est le contraire, on sait bien, puisqu'il est d'abord orphelin de père, son père était ouvrier, avait fait la guerre, est mort à la guerre d'ailleurs, et il était pupille de la nation. Sa mère était absolument illettrée. Donc c'est quelqu'un qui part avec des handicaps énormes sur ce plan-là et qui va se conduire et conduire sa pensée en fonction de cela jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il y a toujours chez Camus, il le montre bien, une méfiance, une distance à l'égard du milieu intellectuel parisien, dont il était évidemment un des piliers, mais au sein duquel il ne se sentait pas à l'aise. Et il décrit avec assez bien de pertinence cette fameuse photo où on voit réunis aussi bien Sartre, Beauvoir, Léris, Queneau, Camus, chez Picasso, ou dans l'appartement de l'un d'entre eux, en tout cas à l'occasion de la lecture collective qu'ils ont faite de la pièce de Picasso, « Le diable attrapé par la queue ». Et sur cette photo, Camus ne regarde pas l'objectif, il caresse le chien. Et cette façon de ne pas se mettre en vedette, si l'on peut dire, et de se sentir solidaire du chien plutôt que des autres figurants de la photo, en dit très long, et je trouve qu'Onfray a bien raison de la développer dans son livre. Donc on voit bien aussi que c'est un livre dans lequel on se moque un peu de la proportionnelle, comme on dit. Des événements aussi apparemment secondaires que celui-là prennent plus de place que d'autres très importants. Si je parle de détails, Onfray rappelle que Sartre, pendant la guerre, a apporté sa contribution à des journaux collaborationnistes, comme Je suis partout, au Comédia, qu'il faisait la cour des directeurs de théâtre pour ces pièces qui ont été créées pendant la guerre. Mais n'oublions pas quand même que le Caligula de Camus, avec Gérard Philipe dans le rôle, a aussi été créé pendant la guerre. Et là, on ne nous en dit rien. Et dans quelles conditions ça s'est fait ? Motus. C'est un peu dommage. Parce qu'au fond, ce qu'il apporte au crédit de Camus est tellement vaste que ça supportait tous les petits écarts accidentels, disons. Il y a cette origine. Cette origine, c'est aussi l'origine algérienne. C'est l'origine au bord de la Méditerranée. C'est ce qu'on trouve dans ses livres solaires de la jeunesse, dans son mode de vie à lui, parce qu'il était tuberculeux, mais il était très sportif. Il était gardien de but. Il nageait beaucoup dans la mer. C'était quelqu'un de très physique. C'était aussi quelqu'un de très séduisant, ce qui aussi marque une différence avec Sartre, qui avait, de ce point de vue-là, lui-même quelques handicaps à sa manière. Et puis, il a été repéré. C'est un peu une destinée à la Elio Di Rupo, c'est-à-dire qui part avec tous les indicateurs à zéro, ou même à moins que zéro, et puis qui un jour tombe sur, c'est vraiment comme ça que ça se passe, un enseignant qui dit « j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose là-bas ». Et c'est ce qui va se passer avec Camus, qui va avoir pour professeur Jean Grenier. Et Jean Grenier, dont Onfray ne fait pas un portrait sans nuance, mais qui va quand même être le grand éveilleur de Camus. Par exemple, pour dire son goût de certains détails révélateurs, Onfray rapporte que le jour où Camus a eu le prix Nobel, il y a eu une réception chez Gallimard, et il y avait là ses deux enfants, jumeaux d'ailleurs, son fils et sa fille. Et ce que Grenier raconte, c'est les réflexions de ses enfants, notamment du fils qui dit « Eh bien, peut-être que papa, maintenant, va commencer à se prendre pour un écrivain. » Ce sont des petits détails significatifs, à la fois de Camus, qui était lui-même assez sujet à des moments de découragement, et en même temps, de la part de Grenier, une façon de prendre ses distances, parce qu'il a été celui qui a contribué à forger ce phénomène qui était devenu Camus. Alors évidemment, ce qui intéresse beaucoup Onfray, c'est la position de Camus par rapport en particulier au communisme. Pour ne parler que de ça, parce que tout ce qu'il dit sur le colonialisme, toutes les prises de position pendant la guerre d'Algérie, etc., sont toujours remarquables d'abord d'humanisme et de respect de la personne, quelle qu'elle soit. Par exemple, Camus était un opposé absolu à la peine de mort, et il a même signé des pétitions contre l'exécution de Brasillach, dont une partageait pas l'ombre d'une idée, bien entendu, mais la peine de mort en elle-même lui paraissait, à ses yeux, il avait sans doute raison, absolument inacceptable, et il est resté totalement fidèle à ça. Alors que Sartre, de son côté, pouvait fermer les yeux sur les massacres collectifs du stalinisme. Donc, tous ces points-là les séparent inéluctablement, et il prend plaisir aussi à relever ces moments où Sartre est d'une particulière hypocrisie, et en particulier justement au moment de la mort de Camus. L'article qu'il écrit dans Les Temps modernes est un sommet du genre. Donc ce qu'il veut déterminer, et c'est ce qui explique le titre du livre, qui s'appelle « L'ordre libertaire », c'est que Camus était un libertaire, donc quelqu'un qui militait pour la liberté, mais qui savait bien qu'on ne peut pas revendiquer la liberté absolue, donc qu'il y a cette nécessité d'un ordre. Évidemment, ce sont des notions qui ont mauvaise presse dans la pensée de cette époque, enfin surtout de l'intellectuel français. Exactement autour des années 50-60, et ça continue jusqu'à présent. C'est cet embarras dans lequel on est de devoir admettre le réel et la nécessité dans le réel d'une organisation ou d'une discipline, ce qui permet alors, par exemple, de parler, comme Camus le faisait, d'utopie modeste. Et sur l'utopie modeste aussi, il développe toute une série d'arguments qui sont extrêmement bien formulés. Si on ne prend que les têtes de chapitre, un art de vivre en temps de catastrophe, par exemple, ben ça dit tout. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut combiner à la fois la prise en compte et la non-négation de la catastrophe, exactement comme on le connaît de nos jours, et en même temps préserver à l'intérieur de ça un art de vivre. Donc on pourrait dire que Camus était un homme du compromis, et on sait que le compromis a mauvaise presse dans les milieux intellectuels, mais Onfray montre bien qu'on ne peut professer un absolutisme qu'à condition de se désancrer de la réalité. Dès le moment où on confronte la pensée et le réel, cette pensée doit se couler dans les exigences du réel, et donc faire des concessions. Et par exemple, dans L'homme révolté, qui est le grand livre qui a valu à Camus énormément de critiques, surtout de la part des crypto-communistes ou staliniens, il y a tout un chapitre sur Sade. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, Sade, chez des gens comme Bataille ou comme Klossowski, était à la mode, enfin, il devenait fréquentable. Et Camus dit non, pas du tout, on a affaire à quelqu'un qui prône la torture, la coercition, enfin, tout comportement que nous ne pouvons aucunement tolérer. Alors, bien sûr, il n'aurait jamais milité pour que Sade demeure dans l'enfer de bibliothèque, mais de là à en faire un prophète, il n'était pas question de faire le pas. Donc c'est ce que l'on sent tout au long de ce livre, c'est l'attitude d'un excellent vulgarisateur, et en même temps on est un petit peu désobligeant quand on appelle Onfray seulement un vulgarisateur, mais c'est en tout cas quelqu'un qui veut atteindre un public, le plus vaste public possible, pas tellement par goût du succès, mais parce qu'il croit que la philosophie est d'utilité publique. Alors essayons de l'aider à circuler, et je crois que c'est un livre de bonne intention et de bonne composition, parce que d'une part il conforte l'immense public que continue à avoir Camus dans l'admiration et la reconnaissance qu'on lui porte, et de l'autre, il ne peut qu'ébranler ses adversaires en montrant que les critiques qu'on a pu lui faire, et même les critiques caricaturales, comme de dire, et la phrase de quelqu'un que j'ai très bien connu, Jean-Jacques Brochier, quand il disait « c'est un philosophe pour classe terminale », ne sont pas fondées. Donc c'est une défense et illustration, et je crois qu'elle arrive au bon moment, pas seulement pour des raisons de calendrier.